Maintenant, nous allons passer, donc, comme je l'ai dit précédemment, à la troisième thématique, qui est donc celle du masculinisme sur les réseaux sociaux. Et pour cela, je vous laisse accueillir le club Jacques Radio du lycée Jacques Amyot. Ils traiteront donc de ce sujet avec Madame Pauline Ferrari, qui est journaliste et auteure. Et je les laisse se présenter un petit peu plus et poser leurs questions. Vous pouvez les applaudir.
Jacques Radio, émission spéciale.
Bonjour à tous. Du coup, l'équipe Jacques Radio est allée à la rencontre des lycéens pour connaître leur avis sur l'égalité entre les hommes et les femmes. Écoutons leurs réponses.
Qu'est-ce que ça t'évoque, toi, la date du 8 mars ?
C'est la journée des droits des femmes, droits de la femme.
C'est quoi la journée du 8 mars ?
Je sais pas.
J'ai l'impression que c'est la journée des droits de la femme.
Alors, je sais plus trop, mais il me semble que c'est un truc avec des tables rondes où on réunit des personnalités qui viennent d'Auxerre ou d'ailleurs pour discuter de sujets, c'est ça ?
Est-ce que tu trouves que l'égalité homme-femme, elle est acquise aujourd'hui ?
Non, pas totalement. Je pense pas.
Il y a beaucoup de progrès, mais il y a encore beaucoup de chemin à faire.
Il y a beaucoup de travail à faire encore. Moi, je suis d'accord.
Bah, pour moi, c'est évidemment quelque chose encore qui a travaillé, même si on se rapproche déjà un peu plus du but. Mais il y a toujours quelques inégalités qui sont flagrantes et qu'il faut encore régler.
On n'est pas si loin de l'égalité que ça, comparé à d'autres pays. Je dis bien comparé à d'autres pays.
Bien sûr, il y a encore beaucoup d'inégalités. Le problème, c'est surtout que... Je veux dire qu'il y a des problèmes par rapport, je trouve, au consentement. Je trouve qu'actuellement, le consentement, il n'est pas assez protégé par la loi.
Je pense qu'il faut qu'on éduque encore de plus en plus les jeunes garçons à faire des efforts en allant dans ce sens-là pour l'égalité homme-femme. C'est par ça qu'on pourra avancer.
Bah, je considère que tout le monde est égaux, de toute manière.
Est-ce que toi, t'es engagé pour cette cause-là ?
Bof. Moyen, quoi.
Je pense pas être féministe parce que je suis pas dans les extrêmes, mais quand même.
Bon bah je suis pas une femme du coup, mais je me sens quand même engagée à mon niveau. Ce que je peux faire, j'essaye d'être le plus impliqué possible en tant qu'homme engagé.
L'égalité des salaires et tout ça, enfin pour se battre pour nos droits.
Personnellement en tout cas je participe aux actions qui sont réalisées ici au lycée, ou participe pas activement, peut-être aussi parce qu'il n'y a pas assez d'informations à propos de ça.
Perso j'agis pas forcément, mais disons que c'est pas pour autant que j'acquiesce. Faudrait oui faire plus de trucs pour ça.
Effectivement, je ne vais pas manifester dans les rues, mais je suis très engagée. S'il y a par exemple des activités à faire comme ça au lycée ou plein d'autres choses qui m'est accessible facilement.
Est-ce que tu sais ce que c'est le masculinisme ?
Je pense, mais je ne pense pas trop. Je ne sais pas. Je ne saurais pas vraiment dire.
C'est la cause pour les hommes ? Pour défendre les droits des hommes ?
C'est un peu les hommes... Antiféministes, entre autres, qui se comportent pas comme des personnes bonnes pour la société de demain.
J'entends beaucoup parler du masculinisme, donc oui, je vois ce que c'est. Je dirais que c'est la volonté qu'ont les hommes, les garçons, à vouloir écraser les femmes, du coup.
C'est certains hommes ou femmes qui pensent que l'être masculin est supérieur à l'être féminin, qu'il aurait plus de droits qu'elle, et que la femme, c'est à la cuisine.
Donc, bonjour Pauline Ferrari, merci d'avoir accepté l'invitation de Jacques Radio et du lycée Jacques Amyot pour cet après-midi un peu spécial. Donc vous êtes journaliste, féministe, spécialiste des réseaux sociaux et vous êtes également l'auteur d'un ouvrage intitulé « Former à la haine des fans » paru en 2023 aux éditions Lattès. Dans les micros de trottoir écoutés précédemment, on a pu entendre des définitions du masculinisme données par les lycéens. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce qu'ils ont expliqué ou est-ce que vous pouvez nous donner votre propre définition ?
Mais déjà, merci à tous et toutes pour votre travail et pour l'invitation. Je suis très très contente d'être là. Il y avait des très très bonnes définitions du masculinisme dans les micro-trottoirs que vous avez pu faire. Je vais en donner une définition qui va paraître très boring et j'en suis désolée, et très sociologique, mais après j'essaierai de l'expliquer un peu mieux. Le masculinisme, on le définit comme une branche de la pensée antiféministe. Donc la pensée antiféministe, c'est le fait de dire d'être contre le féminisme et d'être contre les avancées sociales et politiques permises par le féminisme. Et donc le masculinisme serait une branche de ça, et moi je dis que c'est une forme de mise en pratique de cette pensée antiféministe, et donc plus vulgairement, c'est la volonté de groupes d'hommes de vouloir dominer les femmes et de vouloir réduire leurs droits qu'elles ont pu acquérir à travers le féminisme. Voilà. Et je sais que quelqu'un dans le micro-trottoir a dit « c'est la volonté des hommes d'écraser les femmes ». J'aurais pas dit mieux. Globalement, c'est à peu près ça, le masculinisme.
Est-ce que vous pourriez nous faire un petit peu
un plan chronologique du masculinisme, quand c'est arrivé, quand ça a commencé?
Absolument, et c'est une histoire très intéressante parce que, je sais pas si vous avez remarqué, mais masculinisme et féminisme sont deux termes qui se ressemblent beaucoup et donc qui sont construits un petit peu en miroir. Et il y a une explication à ça, c'est qu'à la base, les premiers masculinistes, c'était des hommes pro-féministes. Choc dans l'assistance. Waouh, qu'est-ce qu'elle est en train de raconter ? Dans les années 70, au moment de la seconde vague du féminisme, c'est-à-dire basée principalement sur les droits reproductifs, la pilule, l'avortement, la contraception, etc., tout ça, les féministes, les militantes, se réunissaient en non-mixité, c'est-à-dire qu'entre femmes, qu'entre elles, pour discuter un peu de ce qu'elles avaient envie de faire. Et que ce soit leurs frères, leurs copains, leurs mecs... disait mais nous, qu'est-ce qu'on fait? Parce que vous, vous êtes en train de vous réunir entre femmes et nous, bah, on est un peu comme des bêtes, là, on ne sait pas trop quoi faire. Et les féministes leur ont dit, bah, vous aussi, faites des groupes d'hommes entre vous et discutez de comment vous pourriez peut-être améliorer la société. Et donc, ils ont fait ça. Et dans ces groupes de parole en non-mixité d'hommes, sont nés deux courants. Un courant qui pense que on ne naît pas homme, on le devient, c'est-à-dire que la socialisation, l'école, la famille participent, et la société participent à faire les hommes tels qu'ils sont à travers certaines valeurs. Et un autre courant qui est plus essentialiste, qui dit en fait on naît homme avec des caractéristiques d'homme, c'est-à-dire que dès la naissance, on est avec le fait qu'il faut être viril, fort, etc. Et ça ne se construit pas. Et cette deuxième catégorie va s'embrouiller avec tout le monde. Ça va être la bagarre avec tout le monde. Et c'est eux qui vont devenir masculinistes dans le sens où ils vont dire ben, on est contre le féminisme qui nous a rejetés. Et donc ça, c'était dans les années 70. Et au fur et à mesure du temps, dans les années 90, le féminisme devient un peu plus institutionnel, c'est-à-dire qu'on commence à avoir des politiques globales dans les gouvernements pour prendre en compte les droits des femmes, etc. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à chaque fois qu'il y a des grandes avancées pour les droits des femmes et des personnes LGBT, on a des grosses offensives masculinistes. Donc c'est le cas dans les années 90. Ça va être le cas au début des années 2010 en France. Il y a un peu plus de 10 ans, se votait en France le mariage pour tous et toutes. En parallèle de ça, on avait des mouvements masculinistes qui disaient que la justice était aux mains des féministes et n'accordait pas assez le droit de garde aux pères. Donc on s'est retrouvés avec, par exemple, des hommes qui se sont enchaînés à des grues à Nantes et qui, quand ils sont descendus de leur grue, ont commencé à insulter toutes les femmes. Par exemple, on a eu ce mouvement-là avec MeToo, c'est-à-dire avec des arguments, par exemple, que vous avez peut-être déjà entendus, du style « moi, je ne prends plus l'ascenseur avec une femme parce que j'ai peur d'avoir une plainte ». Ça, c'est un argumentaire masculiniste, par exemple. Et très récemment, l'année 2022, avec un procès que vous avez peut-être suivi, qui est l'affaire Johnny Depp-Amber Heard, qui a largement été orchestré par des réseaux masculinistes. Donc en fait, les masculinistes, ils n'ont pas attendu les réseaux sociaux pour exister, mais on va dire que ça leur a donné un lieu où se rassembler et s'organiser. Et c'est pour ça que moi, j'ai choisi de traiter ce sujet-là.
Alors, vous en avez parlé un petit peu de MeToo, mais est-ce que vous pourriez faire un lien entre du coup, le masculinisme et le mouvement MeToo ?
Alors du coup, le mouvement MeToo, on a beaucoup parlé d'un mouvement de libération de la parole. Moi, je dirais que c'est plutôt un mouvement de plus grande écoute des femmes, parce que je pense que les femmes ont toujours parlé, c'est juste qu'on ne les avait pas véritablement écoutées. Et donc à ce moment-là, en 2017, on a parlé que de ça pendant des mois, et c'est devenu un sujet qu'on était obligé de mettre sur la table de l'agenda politique et médiatique. Tout le monde s'est mis à en parler. En fait, quelque part, la plus grande peur des masculinistes se réalisait. C'est-à-dire que, eux, leur grande peur... en fait, il faut savoir que les masculinistes, ils vivent dans un monde où ils pensent que les femmes ont pris le pouvoir et cherchent à tuer tous les hommes. Ce qui fait qu'ils ont cette peur que les féministes, en gros, éradiquent tout le monde. Et avec MeToo, le fait qu'il y a plein d'hommes très célèbres qui ont été accusés de violences sexistes et sexuelles, en fait, les masculinistes ont commencé à se dire « ça y est, en fait, les femmes sont en train de prendre le pouvoir ». Et elles vont nous éradiquer. Et donc, en parallèle de ça, les masculinistes se sont beaucoup plus organisés sur les réseaux sociaux, notamment, pour essayer de produire ce qu'on appelle du contre-discours, c'est-à-dire un ensemble de théories, de paroles, de fausses informations, parfois, pour essayer de discréditer la parole des femmes justement qui étaient en train de parler. Ce que je vous disais par exemple avec le truc de l'ascenseur, ça c'est un truc qu'on a beaucoup entendu. Ça va être le fait de « ah là là, on peut plus rien dire ». Le « on peut plus rien dire », ça vient un peu des masculins aussi. C'est le fait de dire « ah ça va, c'est bon, c'est Gérard ». Bon voilà, peut-être déjà quelque chose que vous avez entendu. Mais ça, ça fait partie un peu d'un ensemble de pensées antiféministes. Et on va dire que MeToo a accéléré un peu la volonté de ces hommes-là de prendre de la place, et notamment de la place numérique, et notamment de viser les plus jeunes aussi.
Laureline l'a mentionné quand elle vous a présenté. Vous êtes spécialiste des réseaux sociaux. Est-ce que vous pourriez nous expliquer comment les masculinistes les utilisent comme outils pour exercer leur haine ?
C'est une très bonne question. Faut savoir que moi, je suis une vieille personne, mais quand j'étais adolescente, le masculinisme, on pouvait le trouver dans des endroits un peu plus obscurs d'Internet. Par exemple, les forums de jeuxvideo.com, qui est un forum spécialisé sur jeux vidéo, et qui comprend des forums de discussion. Ça, c'était en fait sur des espaces très spécifiques. Là où, depuis plusieurs années, notamment depuis les confinements, parce qu'on a tous et toutes passé beaucoup de temps en ligne, les masculinistes sont sortis de ces forums obscurs pour aller sur des réseaux sociaux très traditionnels. C'est-à-dire que les masculinistes, maintenant, ils ont tous un compte Instagram, un compte TikTok, une chaîne YouTube, un salon sur Discord, des canaux sur Telegram, etc., etc. Et en fait, là où ils utilisent les réseaux sociaux, c'est qu'ils sont super forts en communication, qu'ils ont très très bien compris les codes d'Internet, et du coup, maintenant, ils font des super vidéos YouTube, comme nos YouTubeurs préférés, avec des titres où on a grave envie de cliquer, en majuscules généralement, avec des titres, par exemple, 5 conseils pour trouver une femme de grande valeur. Alors, on a très envie de cliquer. Avec des miniatures un peu où il y a des bonhommes avec des têtes étonnées comme ça. Oh, incroyable. En fait, ils vont utiliser toutes les techniques de ce qui marche bien sur Internet pour essayer de convaincre, tout simplement, et pour essayer à ce que les gens s'intéressent à leur contenu, cliquent, commentent, en fait, de créer ce qu'on appelle de l'engagement avec du contenu. Parce que plus il y a de l'engagement avec du contenu, plus il remonte dans l'algorithme, donc plus il est populaire et présenté à tout le monde, y compris des gens qui ne seraient pas forcément intéressés par ces idéologies-là à la base.
Est-ce que ce sont les jeunes qui sont le plus ciblés par les masculinistes et quel est l'intérêt en fait pour eux de s'adresser à ce type de personnes ?
Je dirais que de plus en plus, ça cible les jeunes pour des raisons très simples. La première raison, c'est que statistiquement, c'est les jeunes qui passent le plus de temps sur Internet. Même si vos parents et vos grands-parents passent aussi du temps en ligne, il y a aussi cet aspect que quand on est jeune, adolescent, jeune adulte, on est encore à un âge de construction de son identité, de ses valeurs, et on est à la recherche aussi d'éléments, de matière pour construire cette identité-là. Et donc, c'est des périodes qui sont un peu aussi de fragilité ou de vulnérabilité, c'est-à-dire qu'on peut penser quelque chose à 14 et en fait, à 17 ans, avoir totalement changé d'avis. Et en même temps, c'est une période où tout paraît très définitif. Donc là-dessus, le public adolescent est un public, on va dire, assez idéal pour les masculinistes. D'autre part, c'est un public qui va avoir beaucoup plus de temps que les adultes à consacrer, à regarder du contenu, à commenter, à engager, à partager à des amis aussi. Et puis, l'objectif des masculinistes aussi, c'est de faire payer. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'au-delà de l'objectif politique de ces hommes-là, de recruter, notamment du côté des partis d'extrême droite, il y a aussi souvent une volonté de se faire de l'argent et de vendre, alors que ce soit des livres en ligne, des e-books, des formations pour avoir une mâchoire beaucoup plus carrée, pour gagner en confiance en soi, pour réussir à séduire 300 femmes en 2 semaines. Ça existe, ça coûte 1 400 €. C'est très cher. Des formations pour refaire votre profil Tinder, pareil, 3 000 €. C'est très très cher, pour des photos pas ouf en plus. Mais bon, bref. mais en tout cas, c'est un business aussi. Et il y a un peu cette idée que les jeunes seraient... dans l'idée des masculins, c'est un peu l'idée que les jeunes seraient un peu idiots et du coup seraient prêts à payer pour ce genre de choses. Alors qu'en fait, on sait bien que vous n'êtes pas idiots. Mais eux sont, en tout cas, le pensent. Donc voilà, c'est un peu les raisons pour lesquelles les masculins ciblent les jeunes, parce qu'ils ont l'impression que c'est un public un peu plus facile à convaincre. Je pense qu'il y a ça aussi.
D'où vous vient cet engagement par rapport au masculinisme et son influence sur les réseaux sociaux ?
Comme je disais, moi je suis une vieille personne, mais j'ai passé toute mon adolescence sur Internet. Et quand j'étais adolescente, j'étais pas très populaire et j'avais beaucoup de mal dans ma vie, on va dire, relationnelle et affective. Et en fait, j'ai passé beaucoup de temps sur les forums de masculinistes, de coachs en séduction quand j'étais ado. Parce que je cherchais des réponses, mais comme beaucoup de gens cherchent des réponses sur Internet, mais je comprenais bien qu'on ne vivait pas la même réalité, eux et moi. Et puis après, j'ai grandi, je suis devenue journaliste, etc. Et en fait, depuis quelques années, je fais des interventions en collège et en lycée pour parler justement de la question du numérique et du genre, donc des inégalités hommes-femmes, etc. Et en fait, j'ai commencé à voir que des propos que moi, je pouvais voir sur des vieux forums obscurs d'Internet il y a plus de 10 ans, maintenant, c'était dans la bouche d'ados de 15-16 ans qui me disaient des trucs ahurissants. Par exemple, 70% des femmes qui disent qu'elles ont été victimes de violences, bah, elles mentent, avec des statistiques très précises. Ou alors, de toute façon, moi, je ne me marierai jamais parce que ma femme, elle me piquera tout mon argent si on divorce. Ou alors, bon, d'autres propos plus ou moins fleuris que je vous épargne, mais en tout cas des propos très précis et très violents, et c'est ça qui m'a donné envie aussi de me consacrer à ce sujet, c'est de comprendre comment ça se faisait que ça a gagné autant d'ampleur, et particulièrement chez des très jeunes parfois.
Merci. Les réseaux sociaux, c'est vraiment dans l'air du temps, ça nous concerne directement, mais pourquoi est-ce que vous avez choisi plutôt les réseaux sociaux plutôt qu'un autre support ?
Parce que je pense aussi que dans les médias traditionnels, on a beaucoup de défiance vis-à-vis des réseaux sociaux. Et je pense que, surtout, la plupart d'entre vous dans cette salle, je suis sûre que vous avez peut-être eu des fois des discussions un peu houleuses avec vos parents qui ne comprennent pas forcément les réseaux sociaux, qui ne comprennent pas forcément Internet. Et le problème, c'est que j'ai la sensation qu'au niveau des décisions politiques, des fois dans le domaine de la justice ou en fait chez les institutions un peu légitimes, des fois, on a du mal à comprendre qu'est-ce qui se passe sur Internet et à considérer, en fait, c'est un espèce d'espace où il n'y a pas de règles, il n'y a pas de loi, alors que c'est faux, il y a un arsenal juridique très complet, mais où, en fait, chacun ferait un peu ce qu'il veut et que si on vit des violences sur Internet, ce ne serait pas grave parce que c'est sur Internet. En gros, c'est éteins ton téléphone et tout se passera mieux. Et moi, je trouve que c'est intéressant de s'intéresser à ces médias-là, à ces médiums-là, parce que déjà, c'est vos médias à vous, de la jeunesse, et je pense que c'est important de vous donner la parole là-dessus, de s'intéresser à ce qui vous intéresse, et aussi parce que, ben, en fait, la vie réelle et Internet, c'est un continuum, l'un influence l'autre, et donc, en fait, ce qui se passe dans la vraie vie, ça se passe sur Internet en premier ou inversement. Donc, je pense que c'est intéressant, justement, de se pencher sur le numérique, et aussi parce que ça me donne une très bonne excuse pour pouvoir regarder des TikTok et dire que c'est du travail. Bon, ça c'est...
vous êtes donc auteur du livre « Formé à la haine des femmes » qui est sorti en 2023. Et on s'est demandé avec la Jacques Radio à qui s'adressait votre livre ? Quel public ?
Ce livre, à la base, j'ai vraiment voulu le concevoir pour les adultes qui travaillent avec les jeunes ou qui sont parents. Parce que je me rends bien compte, quand je parle avec des professeurs, quand j'interviens, ou quand je parle avec des adultes qui travaillent avec les jeunes, à quel point ils sont parfois un peu perdus, justement, sur ces questions de réseaux sociaux, d'Internet, des questions de genre en ligne, de masculinisme. Alors que quand j'interviens dans des classes et que je parle, par exemple, « Ah, est-ce que vous connaissez Alexis Chance ?» La moitié de la classe fait « Ouais, on voit très bien qui c'est. » Ou Andrew Tate, on voit très très bien qui c'est. En fait... quand je parle avec les ados, ils savent très bien de qui je parle. Ils n'ont pas besoin que je leur explique ce que c'est. Je peux essayer de leur expliquer pourquoi ce n'est pas ouf de regarder ces contenus-là. Mais je ne suis pas à devoir juger. Donc ce bouquin, je l'ai vraiment fait aussi pour donner des clés aux adultes qui travaillent avec des jeunes et qui sont en compagnie de jeunes aussi, pour voir entamer ce dialogue-là, de qu'est-ce qui se passe sur les réseaux sociaux de leurs jeunes et peut-être les éviter une forme de... tomber, on va dire, dans le masculinisme aussi.
Donc pour vous, sensibiliser le public à ce sujet, c'est très important.
Oui, je pense que c'est la première étape pour justement contrer le masculinisme, parce que moi, je pense qu'en effet, on pourrait prévoir plein de lois, on pourrait prévoir plein de manières de réguler les réseaux sociaux, mais qui sont tenus par des grandes multinationales, on pourrait prévoir plein de choses, mais je pense que la première étape, c'est déjà... informer sur le sujet, savoir ce que c'est le masculinisme, comment ça s'opère, et essayer de détricoter un peu ces théories, pourquoi elles sont fausses, pourquoi elles sont dangereuses aussi, et comment elles se propagent un peu en ligne. Déjà, si on arrive à faire ça sur un niveau global de population, je pense qu'en fait, c'est une forme de prévention qui aidera à éviter la radicalisation et éviter qu'on tombe là-dedans sans savoir dans quoi on s'embarque aussi.
Et est-ce que vous pensez que ce serait possible que ce mouvement disparaisse ?
Non. Je pense que malheureusement, il y aura toujours des hommes qui détesteront les femmes. Je pense qu'il y aura toujours des hommes qui chercheront à détruire certains mouvements sociaux et politiques. Mais on peut faire en sorte, à mon sens, qu'ils deviennent tellement petits et tellement insignifiants qu'ils finissent par abandonner. Je pense que c'est plus ça, c'est plus un côté de lutte politique. Mais je préfère qu'il en reste que trois qui buglent chacun dans leur coin. On dit, les féministes, on les déteste. Bon, à la limite, c'est pas très grave, quoi. C'est plus inquiétant quand ils sont très nombreux et qu'ils font corps et qu'ils font un mouvement politique.
Donc nous, on s'est intéressés au titre de votre livre, Formé à la haine des femmes, et on trouvait que ça sous-entendait que les hommes, les garçons sont manipulés. Est-ce que c'est ça que vous avez voulu exprimer par ce titre?
Oui, je pense que, en fait, je pense pas qu'il faille juger ou blâmer les jeunes garçons et les jeunes hommes qui tombent dans le masculinisme. C'est un peu un problème que j'avais avant d'écrire le bouquin. Si je me disais, c'est vraiment... je comprends pas comment on peut tomber dans cette idéologie-là, c'est complètement stupide, etc. Alors qu'en fait, il y a des très bonnes raisons. Les masculinistes, en fait, parlent aux garçons et aux jeunes hommes en leur proposant des solutions, alors qu'il n'y a pas grand monde dans notre société qui leur en propose. Ils n'ont pas beaucoup d'espace où s'exprimer sans que ça devienne des espaces de masculinité toxique, où on pousse des voitures dans la forêt et on se tape sur les pecs comme ça. Là. Donc, c'est vrai, il y a vraiment des stages et ça coûte 500 euros le week-end, c'est vraiment très grave. Mais oui, non, je pense que ces masculinistes-là sur les réseaux sociaux opèrent des stratégies de lavage de cerveau, limite, hein, c'est un peu extrême ce que je dis, mais en tout cas, infusent dans le cerveau des jeunes certaines théories et certaines pensées masculinistes qui font qu'on entraîne les jeunes garçons à devenir misogynes par la socialisation déjà du monde dans lequel on vit, et avec les masculinistes, à devenir violents aussi envers les femmes et envers les minorités de genre.
Est-ce que du coup, vous avez, je ne sais pas, peut-être des astuces à donner pour les personnes qui pourraient se faire entraîner dans des mouvements comme ceux-là ?
Mais je pense que la première chose, c'est faire très attention à son algorithme et d'essayer de, d'essayer de duper son algorithme, surtout sur TikTok, surtout si vous êtes sur TikTok. Parce qu'on est dans une ère où nos algorithmes nous recommandent du contenu toujours plus personnalisé, donc toujours plus spécifique sur ce qu'on aime. Par exemple, je ne sais pas si vous aimez les chiens mignons et la montagne, c'est très possible que tout votre fil d'actualité, ce soit que des montagnes et des chiens mignons. Ça peut être intéressant d'aller liker ou s'abonner à des comptes, des choses dont vous avez moins l'habitude, pour un peu disrupter l'algorithme et pour éviter de tomber dans des boucles. Et aussi, je pense que si vous ressentez de la souffrance, quelle qu'elle soit, une souffrance psychologique, une souffrance par rapport au fait que vous n'ayez pas de relation, une souffrance par rapport à votre place dans la société, je pense que ça peut être intéressant d'en parler en fait à des amis, mais aussi à des professionnels de la santé mentale, parce que je pense que ça peut éviter une forme de détestation de soi-même, mais aussi une forme de détestation des autres. Et ça, je pense que ça peut être une des solutions pour éviter de se sentir glissé peut-être vers un mouvement qui en fait n'apporte aucune solution à part celle de la haine des autres, et des femmes surtout.
On a parlé des garçons et des hommes qui se faisaient un petit peu influencer par ces mouvements masculinistes. Est-ce qu'il y a des femmes aussi qui tombent dedans ?
Oh oui, malheureusement. Il y a des femmes. Peut-être que vous avez passé sur les réseaux sociaux celles qu'on appelle les tradwives, donc les traditional housewives. Donc c'est des femmes qui s'habillent et montrent un style de vie tel qu'on pouvait le romancer, on va dire, dans les années 50 aux États-Unis, et qui montre un style de vie, on va dire, tourné vers la sphère domestique. Donc, en gros, alors, elles ne font jamais le ménage, ça, c'est très bizarre, mais ça, je pense qu'il y a des gens qui font le ménage pour elles. Mais elles font à manger, elles s'occupent de leurs enfants, elles s'occupent de leur foyer. Et en fait, ce qui est dérangeant avec les tradwives, parce qu'à la limite, principe du féminisme, c'est le choix, c'est-à-dire vous avez envie de devenir femme ou mère ou foyer, il n'y a aucun problème avec ça. Ce qui est dérangeant avec les tradwives, c'est qu'il y a un message politique derrière. Souvent, elles sont femmes de sénateurs américains très conservateurs, ou leur époux est un pasteur anti-avortement. Voilà. Et en fait, c'est des femmes qui font passer des messages politiques sous couvert de vidéos lifestyle, notamment sur TikTok. Après, en France, on a un très bon exemple de femme antiféministe. C'est Thaïs d'Escuffon. Peut-être que vous la connaissez, Thaïs d'Escuffon. Ah, j'ai vu des rangs, oui. Thaïs d'Escuffon, qui est une blonde avec des yeux bleus très, très angéliques. Thaïs d'Escuffon, c'est vrai, elle a une tête très angélique quand même. Thaïs d'Escuffon, c'est l'ex-porte-parole d'un groupuscule qui s'appelle Génération Identitaire, qui a été dissous en 2021 par Gérard Darmanin, et qui était un groupuscule qui notamment allait à la frontière entre la France et l'Italie pour rejeter les migrants pour qu'ils ne rentrent pas en France. C'était un groupuscule raciste et identitaire et xénophobe. Et depuis que son mouvement a été dissous, Thaïs, je vais l'appeler Thaïs parce que c'est un peu ma pote, Thaïs, elle s'est lancée à temps plein dans les réseaux sociaux. Et maintenant, c'est la masculiniste la plus connue de France. Et c'est une femme. Et en fait, en tant que femme, elle arrive à transmettre ce discours-là. Parce que je pense que ça séduit beaucoup de jeunes hommes qui se disent, si c'est une femme qui le dit, c'est que ça doit être un peu vrai. Et surtout, comme on parlait de monétisation tout à l'heure, elle a créé sa propre plateforme où on peut discuter pendant une heure au téléphone avec elle pour 130 euros. Je vous jure que c'est vrai. J'aimerais inventer, mais je n'inventerai du tout. Voilà. Et sinon, vous pouvez accéder à son Discord pour 50 euros par mois. Mais oui, il y a aussi une dimension politique. Et en fait, Thaïs d'Escuffon, c'est un très bon exemple parce qu'elle se sert d'idées masculinistes, genre le body count, le fait que les hommes de grande valeur, les femmes qui ont perdu leur valeur, etc., pour recruter à l'extrême droite et rendre les jeunes garçons qui, à la base, sont peut-être juste un petit peu perdus dans leur vie, de les transformer en identitaires et en personnes avec des idées certainement racistes.
Et au niveau juridique, est-ce qu'il y a une loi qui régule un petit peu tous ces mouvements de haine sur les réseaux sociaux ?
Alors, au niveau juridique, ce qui se passe, c'est qu'en France, on a un arsenal juridique sur la question des cyberviolences qui est super, qui est vraiment très bien fait. Le problème, c'est que, comme on parlait des solutions juridiques pour les violences sexistes et sexuelles juste avant, il y a très peu de victimes de cyberviolences qui portent plainte et dont les dossiers sont classés. Les dossiers sont poursuivis. Donc du coup, c'est un petit peu compliqué de réussir à réguler ça. Et surtout, la modération des réseaux sociaux, ça se passe au niveau international. C'est des multinationales et qui n'ont malheureusement aucun intérêt à faire sauter ces vidéos parce qu'elles rapportent beaucoup d'argent aux plateformes comme Instagram ou TikTok.
Et pour finir, très rapidement, comment est-ce que les masculinistes, concrètement, ils agissent ? Qu'est-ce qu'ils font de concret ? Quels sont leurs agissements concrets ?
Dans les agissements concrets des masculinistes, ça va être donc de la propagation de fausses informations et de discours de haine en ligne et hors ligne. Ça va être aussi des actions politiques. Par exemple, on retrouve beaucoup de masculinistes dans les mouvements anti-avortement, donc ce qu'on appelle les mouvements pro-vie, dans la loi contre la constitutionnalisation de l'IVG, par exemple. Mais on va retrouver dans les actes plus concrets aussi des attentats. Notamment en Amérique du Nord, ces 10 dernières années ont été marquées par une dizaine à peu près d'attentats masculinistes en Amérique du Nord, mais également en Europe. Pour résumer, je serai très rapide, mais pour dire que le masculinisme, une des conséquences concrètes aussi, c'est pas juste des gugus sur Internet qui disent qu'il faut être un mâle alpha, c'est aussi des hommes qui tuent des femmes.
Merci beaucoup Pauline Ferrari pour votre présence. Merci d'avoir répondu aux questions de la Jack Radio. Merci à toutes les clips de Jack Radio, donc Lily May, Laureline, Baptiste et moi-même Isaac. Merci à l'équipe technique du Silex. Et enfin, merci à Madame Godard et Monsieur Guider pour cette belle initiative. À bientôt sur Jack Radio.
Merci.
Jack Radio, émission spéciale.